Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de L'Homme Nouveau, une plume, une idée. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir notre première plume, Laurent Dandrieux, pour son livre Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné, publié chez Artege. Bonjour Laurent Dandrieux.
Bonjour.
Pour commencer, comment définissez-vous l'universalisme chrétien et quel est l'enjeu de votre essai ?
Alors l'enjeu, je commence par la deuxième question. L'enjeu, c'est de le distinguer du mondialisme, ce qui n'est pas tout à fait évident pour tout le monde, puisque je pense que beaucoup de gens ont cette idée plus ou moins consciente que le christianisme nous appelle à la fraternité universelle, et eh bien finalement l'universalisme ne serait pas autre chose qu'une autre forme, un autre nom du mondialisme. Or, je pense que c'est exactement le contraire de cela. Qu'est-ce que c'est que l'universalisme chrétien ? C'est une unité spirituelle qui unit les êtres humains en fonction de leur commune paternité divine. L'idée que nous sommes tous frères puisque nous sommes issus de la même paternité divine, et plus spécialement, évidemment, les chrétiens, c'est la fameuse phrase de saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors est-ce que cette unité spirituelle, elle est négatrice des différences, de la diversité des peuples et des cultures ? Absolument pas, et on le voit d'ailleurs bien avec cette phrase de saint Paul, puisque certes il n'y a plus ni juif ni grec, mais il dit aussi il n'y a ni homme ni femme. Or, l'Église n'est pas suspecte de nier ou de vouloir dévaloriser la différenciation sexuelle. Ce qui veut dire que cette unité spirituelle à laquelle nous appelle le christianisme est totalement respectueuse des différences et de la diversité des peuples et des cultures qui fait partie en fait de la nature humaine. Et cela, on le voit bien en fait dès le départ de la façon dont l'Église se répand à travers le monde et la façon dont elle s'adresse aux hommes. La façon dont elle se répand à travers le monde, c'est en créant en fait tout un tas de petites églises locales qui constituent certes l'unique église catholique, mais qui sont des églises qui ont leur existence propre et qui sont chacune d'entre elles pleinement catholiques. L'église d'Antioche, l'église de Constantinople, l'église d'Alexandrie sont des églises qui sont catholiques à part entière et qui n'ont pas besoin d'autre chose pour être catholiques. Et de la même façon, Jésus dit à ses disciples « évangélisez toutes les nations, tous les peuples », il ne dit pas « allez parler à tous les hommes », il s'inscrit déjà dans un cadre communautaire, et de fait, l'évangélisation, l'universalisation du message chrétien à l'ensemble des peuples va se passer suivant un mode très particulier qu'on a appelé beaucoup plus tard, au XXe siècle, l'inculturation, mais la chose existe dès l'origine, c'est-à-dire que l'Église va s'adresser aux gens dans leur culture. Ça existe dès le Christ, c'est-à-dire que le Christ s'incarne dans un peuple particulier, et de ce peuple, il épouse les coutumes, les mœurs, les lois, et de son vivant, il réservera sa prédication au peuple juif. Et puis ça s'incarne aussi très précisément dans l'épisode de la Pentecôte, c'est-à-dire qu'à la Pentecôte, les disciples, saisis par l'Esprit-Saint, s'adressent aux représentants des différents peuples qui sont réunis à ce moment-là à Jérusalem, et chacun, nous dit-on, les entend dans sa langue, c'est-à-dire qu'il reçoit le message chrétien dans sa propre culture. Et c'est effectivement le mode qui va prévaloir tout au long des siècles, c'est-à-dire que l'Évangile va s'inculturé et va s'incarner dans les cultures des différents peuples auxquels il s'adresse. Et inversement, ces différentes cultures, une fois qu'elles ont été rencontrées par l'Évangile, vont devenir partie prenante de l'identité de l'Église. Et c'est ce qui permet à Jean-Paul II, qui a développé tous ces sujets, notamment dans un très beau texte, dans un très beau chapitre de son livre « Mémoire et identité », de dire que l'histoire de toutes les nations est appelée à rentrer dans l'histoire du salut, ce qui est quand même une phrase assez étonnante et assez admirable.
Et vous faisiez tout à l'heure, tout de suite, allusion à la Pentecôte. C'est aussi ce que vous avez voulu montrer dans votre titre, Rome ou Babel, c'est la distinction entre le mondialisme et l'universalisme, finalement.
Voilà, c'est effectivement l'esprit de la Pentecôte, celui de Rome, qui s'oppose à la tentation de Babel. Qu'est-ce que c'est que Babel ? C'est évidemment le célèbre épisode que l'on trouve dans la Genèse, qui se passe à une époque où l'humanité est encore unifiée, il y a un seul peuple qui parle une même langue, et l'homme tire de cette unification, de cette unité, un orgueil qui le pousse à défier Dieu, et donc c'est la fameuse tour de Babel qu'on va édifier pour transpercer les cieux, et donc en fait concurrencer et se passer de Dieu. Ce qui, évidemment, met Dieu en colère, qui décide de, du coup, disperser l'humanité en peuples divers qui, chacun, auront leur langue. Ce qui veut dire, d'ailleurs, premier enseignement de cette histoire de Babel, que cette séparation de l'humanité en peuples et en cultures diverses, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il est en notre pouvoir de modifier ou de dépasser. Ce qui veut dire aussi que effectivement l'unité voulue par l'Église est tout à fait contraire et tout à fait antinomique à l'unité de Babel, c'est-à-dire en fait aujourd'hui le projet mondialiste qui consiste effectivement à tendre à une humanité unifiée dans une même culture, une même langue, une même autorité politique. C'est ce que Benoît XVI a condamné en disant que c'était une unité technicienne qui est effectivement guidée par une forme d'orgueil. On imagine que par cette unité, on va résoudre tous les problèmes inhérents à la condition humaine. Et pour cela, on est prêt à éradiquer toutes les différences humaines qui font obstacle à cette unité. L'unité de Rome, au contraire, c'est une unité spirituelle, pas du tout politique, et qui, n'étant pas politique, est profondément respectueuse des différences des peuples et des cultures qui sont perçues comme étant conformes à la nature humaine et nécessaires à l'épanouissement de l'homme.
Justement, vous revenez à ce sujet sur un thème que vous avez déjà abordé dans votre livre « Église et immigration, le grand malaise » ou presque de la Renaissance. Sur le thème de des enseignements de l'Église à propos de l'immigration. Je crois que ça a changé. Est-ce que vous pouvez dater l'évolution du discours ?
Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que je viens de vous dire que l'universalisme chrétien était le contraire du mondialisme, mais on constate que dans les années récentes, depuis à peu près les années 60, il y a une dérive de cet universalisme qui tend de plus en plus à se rapprocher d'un mondialisme. Et un bon exemple de cela, ou un mauvais exemple de cela plutôt, c'est effectivement le discours de l'Église sur l'immigration, qui est un discours qui est très marqué aujourd'hui, malheureusement, par ce mondialisme. C'est en fait l'idée que les candidats à l'émigration auraient finalement un espèce de droit inaliénable à s'installer où bon leur semble, où ils espèrent trouver des conditions de vie meilleures, que les accueillir serait un devoir absolument indiscutable, et que, en conséquence, les questions de bien commun, les questions d'identité nationale, qui peuvent être bouleversées par ces migrations de masse, n'auraient pas beaucoup d'intérêt ou de considération.
Vous dites même que c'est devenu un péché. Enfin, pour l'Église, c'est presque un péché.
C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe aujourd'hui comme si, de fait, l'accueil inconditionnel du migrant était devenu l'espèce de critère ultime de la catholicité et qu'effectivement, en tout cas, on constate dans le discours ecclésial que très souvent, toutes les réflexions incitant à la prudence sur ces questions, à la maîtrise des flux migratoires, à une plus grande sévérité vis-à-vis de ces migrations de masse, sont condamnées comme autant de replis identitaires, voire de réaction de xénophobie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a dans la réflexion théologique traditionnelle toute une réflexion sur le bien commun, c'est-à-dire que le bien dans lequel on explique, notamment saint Thomas d'Aquin, explique que le bien de la personne est indissociable du bien de la communauté, qu'on ne peut pas séparer les deux. Et il y a aussi effectivement une théologie des nations qui tente à démontrer que l'homme a besoin, pour être pleinement humain, d'être ancré dans une communauté politique particulière, et que donc ces communautés politiques particulières, les cités, mais aujourd'hui qui prennent la forme de nations, ont une existence qu'il convient de protéger, de préserver et de valoriser. Or, aujourd'hui, cette réflexion politique de l'Église, la dimension politique de la réflexion théologique a peu à peu disparu. La réflexion sur le bien commun a tendu à disparaître au profit d'une forme d'individualisme qui est souvent camouflée sous le nom de personnalisme, où on considère que finalement les droits de la personne humaine priment sur toute autre considération et que toutes les autres considérations doivent s'effacer par rapport à ça. Et c'est très net dans les questions d'immigration, parce que le pape François, par exemple, nous rappelle à de très nombreuses reprises qu'il ne faut pas considérer les immigrants comme des agrégats statistiques, mais qu'il faut les regarder d'abord comme des personnes humaines, ce qui est tout à fait juste et légitime. Mais si on ne les regarde que comme cela, que sous cet angle-là, sous l'angle de personne, on en vient à ne plus considérer l'aspect statistique de la chose et les effets de masse. Et donc, en privilégiant cette approche purement personnelle, de fait, l'Église s'est interdit de penser les conséquences sociales, les conséquences culturelles, les conséquences identitaires et même les conséquences religieuses des migrations de masse. C'est donc un bouleversement vis-à-vis duquel elle reste aujourd'hui un peu aveugle. Par ailleurs, dans ce phénomène migratoire, pardon si je suis un peu long, mais il y a aussi, dans l'analyse de ce phénomène migratoire, il y a aussi cette idée que tout ce qui est frontières, identité nationale, culture nationale, serait finalement quelque chose d'un peu suspect, qui nous condamnerait à une forme de repli sur soi, d'égoïsme, et qu'aujourd'hui la tendance lourde serait d'aller vers l'unification du genre humain. Ça, c'est une idée qui est à la base tout à fait profane et qui est, je pense, effectivement le moteur fondamental de l'idéologie mondialiste. Mais malheureusement, je pense que le discours de l'Église, depuis quelques décennies, a eu tendance à s'aligner sur ses positions et à considérer qu'il fallait favoriser tout ce qui concrètement permettait d'avancer vers l'unification du genre humain. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Église a adopté un discours que je n'hésite pas, pour ma part, à qualifier d'immigrationniste, c'est-à-dire qu'au-delà, effectivement, des déchirements que cela produit et des souffrances humaines que cela peut produire, globalement, l'Église perçoit les migrations de masse comme quelque chose de positif, car ça contribue à alimenter cette marche vers l'unification du genre humain.
Et donc, vous dites que cette haine de l'identité cache, en fait, le mondialisme, et qu'il est paradoxal de constater qu'elle n'est pas contradictoire avec l'agenouillement devant le monde. Est-ce que vous pouvez nous montrer les dangers vraiment du mondialisme ?
Alors, je vais démontrer le danger du mondialisme par contraste, en faisant l'éloge de l'enracinement, si vous voulez bien. L'enracinement, la philosophe Simone Weil le décrit comme un besoin vital de l'âme. C'est-à-dire que, en fait, dans la philosophie classique qui a été tout à fait reprise par l'Église et perfectionnée par saint Thomas d'Aquin, l'homme est un animal social qui a besoin des autres pour vivre et pour être en fait pleinement humain. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de médiation. Nous avons besoin, dit Simone Weil là encore, de retirer la quasi-totalité de nos ressources intellectuelles, spirituelles et morales de la communauté dont nous sommes issus. Si nous n'avons pas cette environnement de cette communauté naturelle pour nous nourrir, nous ne pouvons pas être pleinement ce que nous sommes, nous ne pouvons pas devenir pleinement humains, et nous ne pouvons même pas avoir le sens de l'universel en réalité, parce que l'universel, c'est une idée plutôt abstraite à laquelle on n'accède pas en ligne directe, on a besoin de médiation et de médiation naturelle, et c'est notamment, en fait, de manière très concrète, c'est généralement par le cadre de la nation, que l'on s'ouvre à l'idée de solidarité plus large que nos petites solidarités humaines. Donc, l'enracinement est un besoin vital de l'homme, de l'âme, sans lequel nous ne pouvons pas être pleinement humains. Or, le mondialisme, qu'est-ce que c'est ? C'est justement l'idée d'arracher l'homme à tous ses ancrages historiques, culturels, territoriaux, provinciaux, patriotiques et religieux, pour forger ex nihilo une humanité nouvelle, une humanité unifiée qui partagera la même culture. C'est donc une logique profondément, une logique de déracinement pour forger un homme nouveau. Et c'est une logique profondément déshumanisante, en fait, parce que notre humanité, c'est vraiment la spécificité de l'être humain par rapport aux autres créatures vivantes, c'est que nous ne sommes ce que nous sommes que par la culture. Nous pouvons devenir pleinement humains que par la culture. Or, il n'y a pas de culture mondiale, il n'y a pas de culture déracinée. Une culture, c'est toujours l'expression d'un terroir, d'un peuple particulier. C'est pas un hasard si le mot culture est dérivé de l'agriculture et en fait renvoie déjà au terroir de la même façon que le mot patrimoine renvoie à l'idée de patrie. Et en fait, Jean-Paul II disait, je crois dans son discours de 1980 à l'UNESCO, la nation existe par la culture et pour la culture. Et en fait, la nation, c'est pas du tout un truc, comme on le dit aujourd'hui, belliciste et qui nous enferme et qui exclut les autres. C'est le lieu de notre civilisation, parce que c'est le lieu le cadre dans lequel nous puisons notre culture. Et si vous retirez ça, et si vous voulez à la place avoir un individu mondialisé, vous aurez en réalité, et ce qu'on constate malheureusement un peu plus chaque jour, où malgré leur appartenance de papier à une cité terrestre, la plupart des gens sont aujourd'hui baignent dans une ambiance mondialisée et une atmosphère mondialisée. Si vous retirez ce cadre national et cette culture nationale, vous aboutissez à la formation d'êtres sans culture et en réalité de zombies complètement déshumanisés. Et en fait, ce qui est très frappant dans le mondialisme, c'est que c'est un phénomène qui prétend libérer l'homme, libérer de ses contraintes, de toutes les identités qui l'enferment, les frontières qui l'empêchent de circuler librement. On prétend libérer l'homme, mais en fait, ce qu'on libère, c'est ce que Platon appelait le gros animal, c'est-à-dire la part la plus matérialiste et la plus bestiale de l'être humain, celle qui se définit exclusivement par ses appétits, mais qui ne se soucie pas du tout de culture et de civilisation.
Ma question suivante est un petit peu provocante. Est-ce qu'on peut être catholique et nationaliste ?
Alors, le mot nationaliste est un peu piégé, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui a une telle connotation négative qu'on l'assimile tout de suite au bellicisme, il y a une forme d'agressivité vis-à-vis des autres, alors qu'en réalité, je crois que l'Église n'a jamais condamné le nationalisme en tant que tel, et c'est très frappant quand vous trouvez dans les textes des papes des condamnations du nationalisme, il y a toujours un adjectif derrière, c'est-à-dire un nationalisme immodéré, un nationalisme excessif, un nationalisme désordonné. Ça, c'est condamné par l'Église. En revanche, le fait d'être nationaliste ne l'est pas en tant que tel, mais disons que si on veut être moins provocant, je reformulerai votre question en disant est-ce qu'on peut être catholique et patriote, ce qui pour le coup est moins connoté, et je vous répondrai non seulement on le peut, mais on le doit. C'est d'ailleurs une obligation que nous fait le catéchisme de l'Église catholique en disant que l'amour de la patrie est un exercice de charité.
Juste pour revenir, pardonnez-moi, à cette distinction du nationalisme. Pie XII, dans son message pontifical de 1954, je crois, fait la distinction entre la vie nationale et la politique nationaliste. C'est de ça dont vous parliez ou c'est...
Non, je pense que le nationalisme peut être justifié s'il est notamment une défense de la nation quand elle est attaquée. Je pense qu'on peut dire que dans le conflit actuel, les Ukrainiens ont une attitude nationaliste par rapport à l'agresseur russe et qu'il n'y a aucun problématique et aucune problématique avec cela. Je pense que la distinction à faire, c'est que le risque, c'est que la nation devienne une idole. Voilà. C'est quand effectivement on porte à sa nation un amour tellement exclusif qu'il devient effectivement quelque chose qui vous coupe de manière assez brutale du reste de l'humanité. Et je pense que par ailleurs, c'est la grande vertu de l'universalisme chrétien, c'est que il vient équilibrer les choses, c'est-à-dire que quand on est nationaliste ou patriote dans une perspective chrétienne, on ne peut pas transformer sa nation ou sa patrie en idole parce que on a ce message chrétien qui vous rappelle à tout instant que certes vous avez le devoir d'aimer votre patrie et vous avez le devoir de la préférer à toutes les autres et éventuellement de lui faire le sacrifice de votre existence, mais dans le même temps il est hors de question d'oublier que vous partagez avec les autres hommes cette paternité divine, qu'ils sont donc vos frères, et que donc cette manière de tenir ensemble les deux choses qui sont d'une part l'amour de sa patrie et d'autre part l'universalisme chrétien, les empêche l'une et l'autre de devenir des caricatures. C'est-à-dire que l'universalisme empêche le patriotisme de devenir un nationalisme idolâtre et déréglé. Et par ailleurs, l'attachement à sa patrie, à sa nation, empêche l'universalisme de devenir un mondialisme, c'est-à-dire un universalisme détaché de toute identité et de tout ancrage.
Donc vous dites qu'il faut être enraciné dans une culture particulière pour faire son salut. Est-ce que pour vous c'est un chemin ou le chemin ?
C'est un chemin qui est multiple. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas se dispenser de passer par l'enracinement. Parce que tout simplement, c'est dans une culture particulière que vous allez découvrir la culture, c'est dans une culture particulière que vous allez découvrir aussi la foi. Mais ces chemins sont multiples, puisqu'il y a autant de peuples, de cultures qu'il y a de peuples divers. Mais là aussi, je vous renvoie à Mémoire et Identité de Jean-Paul II, où il y a un long développement sur la leçon que nous devons retirer de l'incarnation de Jésus dans le peuple d'Israël. Et pour lui, pour Jean-Paul II, c'est vraiment le signe, la façon dont notre Sauveur s'est incarné dans un peuple particulier, et Dieu sait que c'était un peuple qui avait une identité extrêmement forte, la façon dont il a épousé les coutumes de ce peuple, dont il en a suivi les lois, la façon aussi dont durant sa vie terrestre il lui a réservé l'exclusivité de sa prédication. Ce que ça nous enseigne, c'est que en fait l'universalité du salut, l'universalité de la grâce se propose toujours à nous par le truchement d'une culture particulière. Et de fait, c'est effectivement chacun d'entre nous, par le biais de notre culture particulière, que l'Église nous propose le salut universel.
Et si je poursuis votre raisonnement, vous avez voulu montrer, puisque l'identité nationale est un moyen pour atteindre le ciel, qu'il y avait une identité spirituelle aux nations et donc une âme. Vous avez voulu répondre à cette question.
C'est une question importante parce que je pense que c'est une réalité qui est très largement ignorée aujourd'hui, et même parfois un peu suspecte chez les chrétiens, l'identité spirituelle et la vocation spirituelle des nations. Et elle est absolument essentielle, me semble-t-il, pour comprendre justement en quoi le patriotisme ou le nationalisme, contrairement à ce qu'on décrit habituellement, ce n'est pas la manifestation d'un égoïsme, ce n'est pas quelque chose qui est là pour préserver je ne sais trop quel privilège dont nous voudrions jouir en excluant les autres. C'est véritablement une richesse spirituelle à défendre, mais qui, comme toute richesse spirituelle, peut profiter à l'humanité tout entière. C'est le futur Pie XII, je crois, qui, à l'époque où il était encore cardinal, avait prononcé cette phrase comme quoi les nations, comme les individus, ont aussi leur vocation spirituelle. C'est-à-dire que chaque peuple, chaque culture a à faire entendre une note particulière dans le concert spirituel. Chaque culture témoigne d'une certaine façon d'habiter le monde, d'une certaine façon d'être au monde, mais aussi d'une certaine façon d'envisager les rapports de l'homme avec Dieu. Et chacune a sa spiritualité qui lui est propre et sa vocation qui lui est propre. C'est pour ça, d'une part, qu'il y a effectivement un catholicisme italien, un catholicisme français, un catholicisme boliviens qui ont leur tonalité particulière et qui ne sont pas réductibles l'un à l'autre, et que les nations effectivement ont chacune à jouer un rôle particulier dans le concert des nations. Alors c'est facile, je pense, à comprendre pour la France, peut-être un peu plus.
Oui, parlez-nous de la France.
Peut-être plus difficile à discerner pour le Liechtenstein. Je ne sais pas si on peut parler du Liechtenstein comme une nation, mais effectivement, c'est assez net pour le cas de la France, qui a une vocation tellement manifeste que l'Église a dit et répété tout au long de son histoire que la France était la fille aînée de l'Église. Et quand on dit ça, il faut rappeler quand même que ce n'est pas une vieillerie médiévale, que tous les papes de l'époque moderne l'ont rappelé. Effectivement, la France a une vocation particulière qu'on a résumée dans une formule qui est pour le coup, elle, est médiévale. On parlait de la gesta dei per franco, c'est-à-dire l'action de Dieu par les Francs. Et elle s'est manifestée de plusieurs façons, cette vocation. Elle s'est manifestée, évidemment, dans le rôle qu'a joué toujours la France dans la défense de l'autonomie de l'Église. Alors, avec des hauts et des bas, hein, parce qu'il y a eu des périodes où c'était moins simple que ça, mais on peut rappeler quand même que c'est effectivement la France qui, à la base, a fait don à l'Église des États pontificaux, ce qui n'est quand même pas rien. Il y a évidemment le rôle joué par la France dans la protection de l'Europe vis-à-vis de l'islam et dans la défense des chrétiens partout dans le monde. Rôle tellement important que, encore aujourd'hui, dans le monde oriental, on se réfère aux croisés comme étant des Francs, et que, encore aujourd'hui, la France, même la France républicaine, assume ce rôle de défenseur des chrétiens d'Orient, même s'il n'est pas toujours à la hauteur de ce rôle. Il y a évidemment le rôle très important joué par les Français dans les missions. Je rappelle dans mon livre qu'au début du XXe siècle, les trois quarts des missionnaires qui étaient répartis dans le monde entier étaient français, ce qui est quand même tout à fait ahurissant. C'est une des choses qui a permis à Jean-Paul II, dans un discours quand il est venu en France en 80, de parler de la France comme l'éducatrice des peuples. Et puis, il y a effectivement ce rôle intellectuel. La France a toujours joué un grand rôle dans les débats qui ont agité l'Église, ce qui a permis, là aussi, à Paul VI, reprenant une formule médiévale, de dire que la France était le four dans lequel se cuisait le pain intellectuel de la chrétienté tout entière. Et c'est, je pense, d'ailleurs, probablement là que notre vocation reste la plus actuelle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on l'a constaté encore dans les décennies dans les dernières décennies, la France est toujours à la pointe dans les débats qui agitent l'Église. Alors elle est souvent aussi à la pointe des crises. C'est souvent là que les crises, et notamment la crise moderniste, se font les plus vives. Mais elle est aussi à la pointe souvent des solutions qui sont apportées à ces crises. Et je pense que c'est probablement là que réside de la manière la plus nette notre vocation aujourd'hui.
Parce que vous dites que l'Église est sûrement complice du mondialisme aujourd'hui et qu'elle abandonne ses peuples au moment où ils ont le plus besoin d'elle. La France devrait avoir un rôle pour l'aider à ressortir, mais pourquoi justement c'est à ce moment où on a le plus besoin que l'Église nous abandonne dans notre besoin d'enracinement?
Alors ça c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que l'Église, quand elle s'éloigne de sa bonne doctrine et qu'elle tend à épouser l'esprit du temps, le fait assez volontiers, malheureusement, un peu à contre-temps. Il y a toujours des décalages assez surprenants. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a pu constater cette dérive de l'Église vers le mondialisme à peu près dans les années 60. Probablement parce que l'Église cherchait à ce moment-là des moyens de, comment dire, garder l'oreille d'un monde qui était en train de s'éloigner des problématiques religieuses et spirituelles, qui était en train de se convertir au matérialisme. Et malheureusement, pour garder l'oreille du monde, eh bien, l'Église a eu tendance à se rapprocher de l'esprit du temps, des problématiques dominantes. Elle a inventé de discerner ce qu'elle a appelé les signes des temps, c'est-à-dire des évolutions sociologiques ou historiques qui seraient comme une sorte de sens de l'histoire chrétien. Et elle a cru voir dans les phénomènes de mondialisation une sorte de signe des temps qui voudrait dire que l'humanité marcherait vers sa nécessaire unification. Et je pense que quand vous regardez, quand vous lisez les textes de Vatican II ou les textes que l'Église a produits autour de Vatican II dans ces années-là, il y a cette idée très forte que l'humanité va marcher vers son unification nécessaire et que l'Église ne peut pas rester à l'écart de cette unification. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on fait dériver l'universalisme chrétien, qui était donc non seulement compatible, mais totalement favorable à l'enracinement, vers une forme de mondialisme et de désincarnation. Et que, effectivement, l'Église a tendu de plus en plus à devenir quelque chose d'un peu hors sol, d'un peu apatride. Or, aujourd'hui, maintenant, une soixantaine d'années plus tard, on voit bien les effets absolument désastreux de cette mondialisation effrénée, ce que ça induit en termes de perte d'identité, en termes de perte de culture, en termes de perte de sécurité aussi. Et donc, il y a un besoin, en tout cas dans les peuples d'Europe, il y a une demande de plus en plus forte de retour à une forme de protection de ces identités culturelles, de ces identités nationales. Et malheureusement, l'Église, qui a souvent un train de retard dans ces évolutions, ne semble pas pour le moment prendre la mesure de cette demande ou ne pas la juger légitime. Or, en réalité, elle est tout à fait conforme, cette demande, à sa théologie traditionnelle. Et je pense qu'il faut que l'Église, il est urgent que l'Église aujourd'hui fasse une sorte de retour sur elle-même, d'une part pour comprendre pourquoi les populations, notamment en Europe, se détachent d'elle de plus en plus, et d'autre part pour réaliser que, en fait, elle n'est pas fidèle à elle-même, elle n'est pas fidèle à sa mission, quand elle renonce à épouser l'âme des peuples pour devenir une entité spirituelle désincarnée flottant au-dessus de la nature humaine, quand elle devrait, au contraire, épouser cette nature humaine, y compris dans sa dimension la plus enracinée.
Et comment revenir alors à cet universalisme chrétien ?
Alors déjà, par un rappel à temps et à contre-temps de la doctrine traditionnelle, c'est très important de rappeler un certain nombre de vérités qui semblent aujourd'hui avoir été oubliées. La première de ces vérités, c'est tout simplement que c'est la célèbre maxime de saint Thomas d'Aquin, selon laquelle la grâce ne détruit pas la nature, mais la couronne, et donc il faut que l'Église réapprenne à fonctionner en lien avec la nature humaine et non pas contre elle. Il est important que l'Église se réapproprie aussi sa propre réflexion sur le bien commun, sur la nation, sur le droit des nations. Ça, c'est très important, mais ce sont des démarches, j'allais dire, intellectuelles.
Certains l'ont gardé, certains ont gardé à l'esprit que...
Oui, je pense qu'effectivement, le problème, comme toujours, est très fort à la tête de la hiérarchie de l'Église, et plus on descend dans la hiérarchie, plus on trouve facilement des prêtres qui ont conscience de ces choses-là, mais dont la voix n'est pas forcément toujours entendue. La deuxième chose, peut-être plus concrète, c'est l'importance de la culture chrétienne. Je pense que, effectivement, il y a aujourd'hui, dans certains milieux catholiques, une grande méfiance vis-à-vis de cette notion de culture chrétienne qui serait quelque chose de trop sociologique et pas assez spirituel, que la vraie foi, ça se jouerait dans un rapport personnel avec Dieu, mais pas dans une inscription culturelle. Alors je pense que c'est une chose qui est fondamentalement fausse pour deux raisons. La première, c'est qu'une foi qui n'est pas appuyée sur une culture, une foi personnelle, purement personnelle et purement spirituelle, très rapidement va risquer l'asphyxie parce qu'elle n'aura pas une atmosphère favorable dans laquelle respirer, ou parce qu'elle sera déracinée, effectivement coupée de ses racines qui ne lui permettront pas de respirer. D'autre part, la culture chrétienne, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui fondamentalement aussi nous relie, non pas seulement à nos racines, mais aussi à nos compatriotes qui ne sont plus chrétiens, qui n'ont plus la foi, mais qui restent profondément imprégnés de culture chrétienne, parce que tout simplement parce qu'ils sont français et que la culture française est profondément imprégnée de christianisme. Et donc, au lieu de dire, comme on l'entend trop souvent, mais attention, tous ces gens qui sont attachés à la culture chrétienne et qui n'ont pas la foi, c'est très mal, c'est une instrumentalisation, qu'est-ce que c'est que ces gens qui défendent le clocher de leur village alors qu'ils ne vont jamais à la messe, c'est une instrumentalisation politique, c'est affreux. Au lieu de dire ça, il serait vraiment important que l'on puisse se dire au contraire, mais non, c'est merveilleux. C'est merveilleux, ces gens qui n'ont plus la foi, mais qui pour autant gardent un attachement pour la crèche, pour le clocher. Et c'est à nous, chrétiens, d'aller les chercher là où ils sont et de prendre cet attachement comme un point de départ, comme un levier pour les évangéliser. C'est un levier d'évangélisation formidable que, malheureusement, aujourd'hui, on traite par le mépris.
C'est d'ailleurs votre conclusion, allez enseigner toutes les nations.
Oui, je pense que, enfin, si j'ai terminé là-dessus, c'est parce que j'aimerais bien qu'on prenne la formule au pied de la lettre. C'est-à-dire, je pense que Dieu n'a pas, Jésus, quand il a prononcé cette parole, n'a pas employé le mot nation par hasard, parce que c'était le premier mot qui lui venait à la tête. Il voulait bien signifier par là que la conversion n'est pas un phénomène purement individuel, qu'il est important aussi de vivre dans une atmosphère de chrétienté et qu'on ne vit jamais aussi bien sa foi que quand on vit dans une société chrétienne. Et que donc, il est important, certes, d'évangéliser les individus, mais il est aussi important d'évangéliser les peuples et de faire en sorte que les peuples puissent rester fidèles à leur culture chrétienne.
Merci beaucoup, Laurent Dandrieux, d'avoir répondu à nos questions à propos de votre livre « Rome ou Babel » publié chez Artege. Je rappelle que vous avez écrit également deux livres qui sont publiés aux éditions de L'Homme Nouveau. votre dictionnaire passionné du cinéma, ainsi que la confrérie des Intranquilles. Et merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté ce premier épisode de notre nouveau podcast, Une plume, une idée.